Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de notre émission. Elle démarre à 9h, 9h02, 9h03, 9h04. À suivre, notre invité, c'est le comédien Clovis Cornillac à l'affiche du film Les Têtes Givrées, une très belle histoire dans laquelle il est question de bâcher un glacier des Alpes pour le protéger de la fonte. Et le plus beau, c'est que ça marche. Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philippe.
Bonjour Jean Z.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous vouliez revenir pour nous, émission week-end. Bientôt, nous allons ensemble forêt Fontainebleau tout nu.
Oh là Philippe, je crois que vous perdez des mots en route. Mais je commence à comprendre. Depuis ce matin, je me demandais pourquoi vous aviez creusé un trou dans votre bureau et fait une cabane avec des feuilles à quatre. Mais ça y est, je l'ai, hein ? Vous avez dû regarder la même émission que moi ce week-end. Retour à l'instinct primaire sur RMC Story. Alors écoutez Philippe, moi d'accord, aller tout nu forêt avec vous, mais seulement si vous pas regardez Zizi de moi, car moi avoir sa petite pudeur quand même. Hein ? Donc l'émission, c'est simple, c'est simple. Vous lâchez des binômes de survivalistes dans les pires endroits d'Afrique du Sud et vous les laissez se démerder pendant 40 jours sans eau ni nourriture. Ah, oui, petit détail quand même qui a son importance. Tout le monde est à poil. Je ne sais pas quel sadique a inventé ce concept, mais c'est quelque chose. Parce que si vous vous demandez encore ce que c'est un endroit inhospitalier, c'est ça.
Au nord-ouest, les vétérans Bouen et Wes s'enfoncent dans les collines. Là où la végétation est recouverte d'épines acérées et où des troupeaux d'éléphants sur le qui-vive piétinent le moindre intrus.
La terre est aussi sèche que le derrière d'un éléphant.
Voilà qui résume tout. Je ne sais pas si on peut faire plus inhospitalier que le derrière d'un éléphant. Et d'ailleurs, personne ne veut savoir. Alors, dans une épreuve pareille, vous imaginez bien que ce qui compte, c'est l'entraide, la capacité à se soutenir les uns les autres. Et la voix off l'explique dès le début.
Tout comme les autochtones ayant vécu ici avant eux, ils savent que leur survie dans ce milieu hostile ne tient qu'à une chose.
On n'a pas le choix, il faudra bannir les faibles.
Oh, j'avais l'impression de vous entendre parler de vos chroniqueurs, Philippe.
C'est tellement moi.
Donc, pour se rendre indispensable, hein, tous les candidats font croire qu'ils sont très calés niveau nature, capables de reconnaître le moindre signe. Ce qui compte, c'est le ton et la persuasion dans la voix.
J'ai vu au moins trois styles de crottes différents. Des grosses crottes d'antilope, des crottes moyennes d'antilope et des petites crottes d'antilope.
Je crois qu'il se la raconte. Hein. C'est beaucoup de chichi pour dire que c'est de la merde d'antilope quand même. Bon, on est d'accord ?
On est d'accord.
Alors, vous vous imaginez bien que pour vivre cette grande aventure, ils ont choisi ce que le monde a pu créer de meilleur en termes de qualité humaine.
Je suis jamais très enthousiaste à l'idée de devoir travailler en équipe. Être plusieurs, c'est pas toujours un avantage. Les gens ont tendance à penser que je suis un con.
Alors ce gros nounours attachant et plein d'humanité, c'est Bulent. Vous aurez noté au passage l'utilisation habile du bip pour éviter de dire un gros mot. C'est imparable. Tu mets un bip, tu peux pas comprendre ce que le mec dit vraiment.
Quand Kate est arrivé, je l'ai tout de suite reconnu. Je me souviens de sa participation. Une vraie pute tarée.
Hein ? Difficile à savoir que bip.
C'est une microsyllabe.
C'est ça. Ouais. Si elle se trouve, il a dit puce. Hein, ouais. On ne sait pas. Alors, il faut savoir que chaque candidat a le droit d'emporter un objet et un seul pour survivre. Donc, il ne faut pas se tromper. Vous, par exemple, vous trois là. Si on vous lâchait dans la savane avec des léopards, des éléphants et des crocodiles, quel objet emporteriez-vous ?
Un couteau suisse. Parce qu'au moins, ça en fait plusieurs en un.
Pour attaquer un léopard.
Je ne sais pas, je n'ai pas d'autre idée.
Comme ça, on peut le piquer avec la fourchette.
Un fusil, je ne sais pas.
Mon chien, mais c'est pas un objet.
Non, c'est pas un objet. Une machette, une machette. Eh ben non, vous savez pas ce qui est important dans la savane. Vous êtes des petits citadins. Écoutez plutôt Joshua.
Quoi qu'il arrive, je continuerai à avancer.
T'as pris quoi ?
Du scotch. C'est l'outil multifonction des bouseux.
Eh oui, du scotch. C'est logique. Si t'es attaqué par un crocodile, tu te jettes sur lui et tu lui scotches la mâchoire. Bon, lui, je crois qu'il va mourir. T'imagines quand tu vois le mec à qui tu dois suivre dans l'émission arriver avec un rouleau de scotch. Sauf si toi-même t'avais ramené une équerre, tu vois pas ça comme une bonne nouvelle. Hein. Et d'ailleurs, lors des présentations, ses camarades de jeu étaient sceptiques. Mais Joshua a trouvé la meilleure image pour bien se vendre.
Je suis comme un doigt dans le... Soit je suis une bonne surprise, soit je pourris l'ambiance.
Ouais, c'est plutôt la deuxième option.
Voilà.
Quel poète.
Quel poète. Bon, je vais pas spoiler la suite à nos auditeurs, mais pour rester dans le côté survivaliste, je voudrais revenir deux secondes sur un reportage passé inaperçu dans le 12-45 de M6, où on nous expliquait que dans le désert de l'Utah, des gens vont vivre cloîtrés dans un silo pendant un mois pour reproduire les conditions de vie sur Mars. Mmh. Et M6 s'y est intéressé, car trois étudiants français vont faire partie de cette aventure. Je trouve ça très bien. Hein, je suis très ouvert. Mais ce qu'a annoncé la journaliste, sans qu'absolument personne ne bronche, ça m'a choqué. Parce que nos petits étudiants, là, pendant un mois, ils vont vraiment vivre, mais à la dure.
Aucun téléphone ni réseaux sociaux.
Pour les sorties à l'extérieur, trois fois par semaine, les étudiants devront enfiler un scaphandrier.
Pour sortir, ils devront enfiler un scaphandrier. Un scaphandre, j'aurais compris. Mais un scaphandrier, j'espère qu'il est d'accord et qu'au moins, il y aura un petit bisou avant. Drôle d'époque quand même.
Trois fois par semaine. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. Nous, on vous retrouve tous les jours dans Historiquement Vôtre. C'est de 18h, de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Comment c'était la Corse, le gala en Corse?
C'était super.
C'était vendredi. Hein.
Je salue mes amis de Bigoulia. Ouais. Je leur ai fait écouter votre prononciation. Ils avaient honte pour vous.
Merci beaucoup Jean-Luc. À demain. Stéphanie Loire, votre indispensable ce matin, ce sera quoi?
Je reviens tout à l'heure vous présenter, vous parler d'un album que j'aime beaucoup, un album mythique du rap qui revient pour célébrer ses 30 ans. C'est l'album The Chronic de Dr. Dre, pardon.
Jean Z, j'ai la même question. Votre indispensable, ce sera...
Si vous aimez les films Alien, vous allez aimer beaucoup ce jeu. On va jouer à se faire peur avec Dead Space.
C'est un jeu vidéo. On parlera aussi beaucoup de jeux vidéo avec Clévis Cornillac, puisqu'il est question dans ce film qu'il incarne, dont il est la tête d'affiche, s'appelle Les Têtes Givrées. Mais d'abord, musique avec ce trio Grand Corps Malade, Ben Mazieu et Gaël Faye. Leur titre, On a pris le temps sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Clovis Cornillac, bonjour.
Bonjour.
Acteur au théâtre, beaucoup de pièces, mais aujourd'hui on parle cinéma, un long dimanche de fiançailles. Je peux pas ne pas rappeler Marius de Fréjus dans Brise de Nice, César du meilleur second rôle en 2004 pour Mensonge et Trahison, et aussi 4 films comme réalisateur. Je vais citer Belle et Sébastien 3, c'est magnifique, Couleur de l'incendie, je vous suis dire le premier, c'était un peu beaucoup passionnément. Votre actualité, vous êtes à l'affiche de ce film Les Têtes Givrées avec Claudia Tagbo, film de Stéphane Caz qui sort mercredi. C'est un film très riche, même dans la manière de le raconter ici en direct. Trois histoires dans l'histoire. Tout d'abord, Les Têtes Givrées, ça pourrait presque être Les Têtes Raides, c'est un groupe années 80,
qui était chouette d'ailleurs.
Post-punk, ouais, sont les élèves d'un collège au pied du Mont Blanc, des élèves de SECPA qui n'ont pas confiance en eux. C'est quoi les SECPA ?
SECPA, c'est des élèves qui sont en difficulté, en général, qui ont un problème avec l'éducation nationale.
Je vous interromps d'un mot, c'est une section d'enseignement général et professionnel adaptée, SECPA.
Voilà, mais alors, quand on a dit tout ça, les gens, ils n'en savent pas plus. En gros, c'est souvent des classes qui sont un peu moquées, parce que c'est des enfants qui sont un peu, qui ont du mal, et forcément, ils sont dans une spirale un peu négative, puisqu'ils perdent confiance en eux, ils sont moqués par les autres, et donc ça crée ou du renfermement sur soi-même et un repli, ou aussi de l'agressivité, parce qu'on se défend comme on peut, quoi. Et donc, c'est l'histoire du film, c'est l'histoire d'une classe de SECPA.
Le réalisateur Stéphane Caz a longtemps donné des cours dans ces classes-là, justement, donc il connaît bien le sujet.
Il est passionné par tous les sujets qu'aborde le film. C'est pas du tout un opportuniste, c'est vraiment un gars extrêmement impliqué dans tous ces sujets-là, que ce soit la transition écologique, les SECPA, l'éducation, comment... Et puis donner aux gamins cette chose essentielle qui est croire en ses rêves.
Vous venez de citer les trois grands thèmes du film. On n'a pas parlé de votre personnage, Alain. Qui est-il ?
C'est un ancien entraîneur de ski de haut niveau. Un type, on va comprendre dans le film, qu'il a vécu quelque chose. Il a une sorte de drame. Il s'est un peu enfermé. Il est un peu une sorte de SECPA adulte, mais solitaire. Et il va être, comme l'éducation nationale a des manques de profs, il va être sollicité pour être prof pour cette classe de SECPA. Il va y aller et en fait c'est une sorte d'échange assez positif, parce qu'il va redonner à ces gamins cette espèce de mantra de croire en ses rêves, leur donner la force d'être ensemble, d'y croire. Et du coup, lui aussi, c'est-à-dire ils s'auto-nourrissent les uns les autres. Et il y a une force fine, mais en fait, aborde des sujets qui ne sont pas super fun, et il en fait un film lumineux. Et c'est, je trouve ça sa force. Il a vraiment réussi à être extrêmement, enthousiaste avec des sujets qui ne sont pas forcément...
Lumineux, c'est exactement le mot, parce qu'il y a une troisième partie dans l'histoire, c'est ce glacier que vous allez visiter avec vos élèves. J'ai dit visiter parce que vous... pénétrer à l'intérieur du glacier, c'est absolument somptueux.
Les images sont très belles. C'est aussi cette idée que j'avais interrogé Stéphane avant le film, parce que je ne le connaissais pas. Je trouvais son scénario très joli. Mais je voulais savoir s'il voulait faire du cinéma.
Ouais.
Et parce qu'aujourd'hui, pour que les gens aillent au cinéma, il faut aussi leur proposer du cinéma. Et cette idée, l'histoire pouvait se raconter sur un autre support. Il s'avère qu'il a vraiment fabriqué du cinéma et que les images sont sublimes.
Ça,
et qu'on va...
Ouais, c'est pas, je critique personne, mais c'est pas un téléfilm dans une salle de classe.
Non.
Il y a des images à couper le souffle. Le glacier fond, c'est irrémédiable. Or, vos élèves vont trouver une solution. Ils l'ont vu à la télé en Italie. On va entendre un extrait, c'est Déborah, une jeune élève. Elle est timide, elle n'arrive pas à s'affirmer, un peu quasiment comme tous dans cette classe. Elle a une idée, poser des bâches sur le glacier pour qu'il fonde moins vite. Et lorsqu'elle le propose cette idée à cette classe, le débat est lancé.
En vrai, c'est vraiment trop cool, mais c'est juste que jamais on ne pourra mettre assez sur la surface pour les bâches.
Ouais, j'avoue.
Ouais, c'est éclaté ton truc, Déborah, en fait.
Bah, je trouve pas ça inintéressant. Hein. Évidemment, on pourra pas recouvrir tout le glacier, mais ça pourrait ralentir la fonte.
Vous pensez ?
Mmh. Ah ouais ? Et si on veut qu'il fonde jamais ?
Ouais.
Pour ça, il faudrait que toute la société change. Enfin, si personne fait rien, ça risque pas d'arriver, t'es d'accord ?
Mais monsieur, faut qu'on se bouge alors. Hein. Moi, je suis à fond, vous êtes chez vous ?
Ouais, moi, j'ai avec toi ici.
Mais calme ta joie, meuf, t'as déjà vu la classe réussir quelque chose ?
Il a pas
Et pourquoi pas ? Qui aurait pensé que toi, Siméon, tu grimperais comme ça pendant des heures sans râler ? Et sans moto.
C'est vrai.
Qui aurait pensé que Thibaut lâcherait son téléphone portable pour descendre en rappel? Qui aurait pensé que vous seriez tous là à kiffer un glacier, franchement?
Ou que vous nous sortirez une expression moderne?
Ah, moderne, je vais te dire pour ta gouverne que c'est très ancien kiffer. Mais bref, tout est une question de volonté.
Vous avez vraiment rencontré un prof de SECPA, justement, qui vous a inspiré? Vous êtes allé le voir en classe?
Alors, il n'est pas prof de SECPA particulièrement, mais c'est ce Vincent Fayet, je recommande à tout le monde, et notamment aussi aux professeurs qui nous écoutent, de lire ses bouquins, parce que j'ai vu sa classe, j'ai vu comment il travaillait. Effectivement, il déstructure la classe, il s'est posé la question de se dire, est-ce que cette place de se mettre l'homme du savoir sur une scène devant des élèves silencieux à qui on demande de ne pas copier la copie de son voisin et d'apprendre par cœur, il s'est dit, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre? Et il a déstructuré la classe, il fait travailler les gens par groupe de trois, il reste quand même vraiment le professeur, c'est pas leur copain. Mmh. Il a vraiment une figure qui reste d'autorité, mais ce qui est chouette, c'est que tu vois tous les gamins arriver, moi j'ai vu la classe, hein, et tu vois tous les gamins arriver, ils sont hyper enthousiastes d'apprendre, ils ont envie de s'entraider les uns les autres, et donc ça crée une dynamique que je trouve très intéressante. C'est peut-être pas la vérité, mais il s'avère qu'ils ont leur brevet des collèges à la même heure que les autres, et ils passent le bac à la même heure que les autres, et tout va bien.
On n'a pas encore parlé de la suite. Comment ça se passe? On va aussi parler de jeux vidéo pour une raison assez inattendue. Clovis Cornillac est avec nous, Culture Média revient.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Clovis Cornillac, Les Têtes Givrées, film qu'il porte avec Claudia Tagbo, film signé Stéphane Caz, l'histoire de cette classe d'élèves de SECPA, mais ça pourrait être une classe d'élèves n'importe laquelle, qui décide de faire quelque chose pour un glacier, le bâcher, pour ne pas qu'il fonde. C'est une histoire vraie, c'est réaliste.
Ah oui,
ça
oui,
s'est
oui.
passé en Italie.
Ça se passe encore, et ça se passe même en France, hein, sur certains endroits. Pour essayer de ralentir la fonte des glaciers. Après, ça n'est qu'un pansement. Mmh. Hein, c'est évidemment, mais ça marche. C'est ce qu'ils appellent l'effet d'albédo et qui fait que plus tu as de blanc sur la surface de la Terre, plus ça réfléchit la lumière, donc la chaleur, et ça évite une fonte. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que quand les glaciers fondent, évidemment, on habite à Paris, on habite à Nancy, au Havre, tout ça. Les glaciers, ça paraît quelque chose d'un peu... C'est difficile de les appréhender, quoi. Mm. Après, ce n'est pas le glacier en lui-même avec que la région des Alpes.
J'ai compris,
qui est en
c'est le glacier comme un symptôme.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un effet domino, quoi. C'est-à-dire que moins il y a de glaciers, plus ça se réchauffe, moins il y a de glaciers, moins il y a de banquises, plus ça fond... Plus les eaux grimpent. Plus
et même au-delà de ça, j'entendais il y a peu de temps, on parle beaucoup de sécheresse l'été, et la glace retient l'eau des cultures au printemps et en été.
Bien sûr, c'est une
réserve. S'il n'y a pas de glacier, il y a une immense sécheresse qui va arriver.
Ah non, c'est une vraie réserve. On dit le château d'eau de l'Europe, hein, les Alpes.
Vous dites avoir expérimenté vous-même la fonte des glaces parce que vous avez tourné il y a 20 ans au même endroit.
Oui,
racontez.
Exactement. C'était un film qui s'appelait Malabar Princesse. Et on tournait il y a pile 20 ans sur ce même glacier, sur la mer de glace, pour ne pas la nommer. Et quand je suis arrivé pour tourner Les Têtes Givrées, je n'étais pas retourné sur place depuis 20 ans. Je n'ai pas reconnu l'endroit, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de... C'est plus du tout un effet intellectuel ou ça n'est pas possible. C'est vraiment comme si...
Ce qui était de la glace est devenu de la pierraille.
Ouais. C'est vraiment, et puis c'est gigantesque. C'est-à-dire que la rapidité de la fonte est gigantesque. Ça s'accélère. Alors, c'est assez frappant et c'est difficile à communiquer parce que, comme c'est quelque chose que tu ressens, on se dit oui. « Oh, le pauvre, ça doit être terrible de voir... » Mais on s'en fout de moi, de ce que c'est juste que le constat, là, il est... voilà, c'est indéniable, quoi.
Alors, c'est un film très feel-good, même s'il est inquiétant, en même temps, c'est très feel-good. On en ressort rasséréné, si j'ose dire. En même temps, c'est pas un film béni-oui-oui. Il n'y a pas les gentils élèves et les méchants profs. Les élèves, par exemple, ils passent leur temps à se rabaisser. Comme dit Stéphane Kaz, le réalisateur, ils sont malveillants les uns vers les autres.
Ouais.
Et ça crée une tension qui est vraiment...
Oui, c'est vraiment... ce phénomène, c'est quelque chose qu'on observe hein, chez les gamins, chez les adultes aussi, sûrement, mais... Ils sont pas en classe. Donc là, tu as vraiment une bande de gens et qui au départ, sont vraiment tellement à se parler mal, à ne pas se respecter les uns les autres, parce que c'est une manière de s'isoler.
Il y a aussi un geek dans la classe, Thibaut, gamer forcené. Alain, votre personnage lui demande en quoi consistent ses jeux préférés. Pourquoi il lui parle de ça? Parce qu'il fait une descente en rappel, il a peur et il l'envoie dans un autre univers. Écoutez.
Tu laisses comme ça, glisser, voilà, entre tes mains. Non, regarde pas, t'inquiète. C'est quoi comme jeu, Fortnite? Regarde devant toi, laisse ta corde tranquille et tu te laisses basculer en arrière. Alors ça parle de quoi, ce jeu?
Ça parle pas, c'est un jeu de combat.
Et t'es fort, hein, ce jeu-là?
Non. Là, j'ai un peu chez là, je suis plus sur Minecraft.
Voilà. Hey, super. Et c'est quoi ce bazar encore, Minecraft?
C'est un jeu où on construit des mondes.
Pourquoi, il te plaît pas le tien?
Si, mais il est déjà construit.
T'es sûr de ça? En fait, t'es un combattant, et puis t'aimes construire des mondes. Et ben maintenant, t'as plus qu'à le faire dans la vraie vie. Voilà. Tu vois.
Et alors, je le disais, il y a le travail de l'image qu'on voit à l'image, et même là, on entend le travail du son, puisqu'on entend la grotte, le glacier qui résonne. D'une certaine manière, on va parler, même pas d'une certaine manière, on va parler de jeux vidéo, toujours avec Clovis Cornillac, Culture Média continue. Voici pourquoi je voulais qu'on entende cet extrait. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Clovis Cornillac, on parle des Têtes Givrées avec Claudia Tagbo, film de Stéphane Kaz. On a entendu cet extrait où il y a un gamer qui est un petit peu perdu dans une cascade de glace. Est-ce que vous-même, vous êtes gamer ou vos enfants?
Non, je ne suis pas gamer, mais je ne sais pas si gamer, ça veut dire vraiment que tu joues beaucoup. Si tu joues beaucoup, il n'est pas le dernier, là.
Il a quel âge, le petit dernier?
Il va avoir 10 ans, là. Il aime ça, mais il n'est pas... parce qu'on interdit aussi, je pense, c'est-à-dire que très vite, j'imagine que c'est une drogue dure. Ouais. Donc, il est à 2 heures par semaine.
Ouais. Et vos grandes filles?
Les filles, elles ont 22 ans, donc elles sont plus, je sais pas, on dit pas gamer, mais téléphoneur. Ouais. C'est ça, enfin, tu vois.
On parle de jeux vidéo avec vous, Jean Z, oui. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous nous parlez du remake d'un jeu, pourtant pas si vieux, puisqu'il date de 2008, mais c'est déjà un remake.
Oui, il y a 15 ans, donc 2008-2023, sortait le jeu Dead Space, conçu par le studio canadien Motive Studio. 15 ans, c'est peu, hein, mais en année jeux vidéo, c'est vraiment trop, c'est beaucoup trop.
C'est des années chiens.
Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, le visuel, le son, jusqu'au scénario même, les mécaniques de jeu, la fluidité des mouvements des personnages à l'écran, tout a évolué vitesse grand V en fait, et on n'a jamais été aussi proche finalement des séries télé ou même du cinéma. Et pour résumer Dead Space, l'analogie avec le cinéma d'ailleurs est directe. Il est difficile de ne pas penser à un film comme Alien, le premier, celui signé par Ridley Scott. Quand on voit le scénario et quand on le joue, même la musique semble tout droit sortie d'un cauchemar dans l'espace. Promène, ce sera pas une comédie. C'est fait.
Tu sens que tu vas faire de beaux rêves.
Ça
sent pas le football.
Ça sent pas le football, exactement, ni le hand. Alors, à noter d'ailleurs que je fais une petite parenthèse. Cette nuit, donc, il y avait les Grammy Awards. Il y a eu le premier Grammy donné à un musique de jeu vidéo. Et c'est Stéphanie Economou pour Assassin's Creed Valhalla qui a remporté ce premier Grammy pour l'histoire. Donc, Dead Space, ça démarre en 2508. C'est dans longtemps. L'histoire raconte l'arrivée d'Isaac Clarke et d'une petite équipe de techniciens à bord d'un vaisseau, l'USG Ishimura. C'est un espèce de gigantesque vaisseau qui est destiné à extraire des ressources minières, puisque nous, on n'en a plus sur Terre. Et l'USG Ishimura ne donne plus signe de vie depuis des mois.
USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellyon, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura.
T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'engin?
Non, jamais. Allez,
quelqu'un décroche, bordel.
Et sauf que lorsque la petite équipe va débarquer dans ce vaisseau à la dérive pour réparer le système de communication, eh bien, ça, ils ne vont pas être accueillis par le gentil sourire du capitaine, non, mais par des créatures cauchemardesques autrement plus hostile. L'avantage à la radio, c'est qu'on peut passer des extraits parfaitement horribles, hein, parce que le jeu est horrible. Le jeu est déconseillé au moins 18 ans. Mais comme voilà, il est 10h34, tout va bien. Sans risquer les foudres de l'ARCOM, je peux passer cet extrait.
Attendez, vous avez entendu ?
Ouais. Ouais, je l'entends.
Hammond !
Que tout le monde se calme. Daniel sait réactiver ses ascenseurs.
Il n'y a pas que nous ici.
Là-haut !
Oh mon Dieu !
Voilà, c'est fini. Il y avait des gens, puis il n'y en a plus. Et voilà, donc Isaac Clarke va se retrouver tout seul. Enfin, Isaac Clarke, c'est vous. Hein. Ouais. Et le coup génial, en fait, de Dead Space, c'est de provoquer même quand il ne se passe rien. Parce que là, on a écouté un extrait spectaculaire. Mais bien souvent, on passe dans des couloirs, évidemment, un peu sombres. Hein, la lumière est assez faible, c'est fait exprès. Il n'y a personne, mais on flippe. Chaque fichue porte est un moment de flip. Alors que, évidemment, même si on sait qu'il ne se passera rien, eh ben, c'est la peur. Et c'est là où Dead Space est vraiment, vraiment génial.
Qu'apporte le remake à la version originale ?
Alors, pas grand-chose, c'est vraiment une restauration. Hein. C'est-à-dire que le travail, c'est sur les lumières, les animations, ça c'est vraiment bluffant. Mais la version de 2008, effectivement, quand on y rejoue derrière, on se dit, ah oui, ok, non, il s'est vraiment passé quelque chose au niveau technologique. C'est gore, c'est flippant, c'est angoissant. Il y a des scènes en zéro gravité où on est à 3 mètres du sol, ou même dans l'espace, qui sont franchement réussies. Seul gros bémol, et là, le prix est franchement réussi aussi, 80€. Les blockbusters en fait, du jeu vidéo ont augmenté de 10€, ils sont passés de 70 à 80, ce qui fait que bon, ça fait quand même une facture assez salée.
Et question que certains se posent, pourquoi s'infliger une telle peur ?
Une des hypothèses, c'est que malgré le fait que ce soit un jeu déconseillé aux moins de 18 ans, c'est une manière de retrouver son âme d'enfant. Alors pourquoi ? Parce que quand on était enfant, on adorait flipper.
Ouais.
On jouait à se faire peur. Ouais. Et retrouver cette émotion forte, eh bien, on peut le faire avec Dead Space. Et on retrouve cette émotion, qui est un peu enfantine.
Merci beaucoup Jean Zay. Je voulais vous présenter Wale Badamozi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et directeur général d'une agence de publicité, elle s'appelle Megamonk. Vous venez d'ailleurs de recevoir le prix du publicitaire de l'année, c'est vous. Et si je tenais à vous recevoir, c'est pas pour ça, mais parce que vous êtes en charge du budget d'une marque extrêmement importante dans le milieu du jeu, c'est la PS5, la console de jeu de Sony. Sony qui lance une grande opération dans le monde pour célébrer les plus grands jeux de la PS5 du 8 au 12 février. Et à partir de demain, vous avez décidé de lancer un restaurant éphémère, il s'appelle L'Horizon. C'est un resto gratuit, je me dis mais il faut l'inviter. Quel est le rapport entre la PS5 et un resto gratuit qui va lancer en plein milieu des grèves?
On va le lancer jeudi 9
ouais.
À partir de midi à Châtelet-Léal, l'Horizon Restaurant, qui est une occasion exceptionnelle de tester l'univers du jeu vidéo immersif en réel.
Ouais.
Et donc, vous allez pouvoir voir des dinosaures de 6 mètres de long, des personnages de jeux vidéo en guise de serveur, des plats que vous n'avez jamais goûté avec des données et des éléments préhistoriques quasiment. Tout ça finalement connecté aux 5 sens, parce que qu'est-ce qu'on veut raconter aujourd'hui? C'est que, comme le disait Jean, l'expérience des jeux vidéo, elle est plus immersive que jamais. On fait dans son salon, mais désormais, c'est aussi l'opportunité de le faire à travers une expérience culinaire unique à Paris pendant 4 jours.
Tout ça paraît dingue, il y aura 2 services par jour, à midi, le soir. Pas de réservation, premier arrivé, premier service, ça va être l'émeute.
On attend beaucoup de monde, on a bien structuré tout ça. Mais ça montre aussi l'intérêt qu'ont aujourd'hui les consommateurs pour les expériences qui vont au-delà du jeu vidéo et qui se traduisent aussi dans le réel. Donc il y aura plein d'événements à Paris et ça en fait partie.
Quelque chose à savoir qu'il n'y a que 7 places.
Non, il y a 60 couverts, c'est ça?
Il y a une centaine de couverts, il y a 2 services à midi, 2 services le soir, donc de midi à 15h et de 19h à 23h. Donc vous êtes tous les bienvenus autour de cette table
et
au-delà.
Et le truc est vraiment dingo, en tout cas pour moi, la PS5 connaît un engouement incroyable. Il y a une pénurie, notamment à cause de la crise du Covid. Sony n'arrive pas à fournir. Quand on veut en acheter une à la Fnac ou sur Amazon ou ailleurs, il n'y en a plus. Pourquoi lancer cette opération maintenant alors qu'il n'y en a plus ?
Alors justement, Live from PS5, c'est la réponse à ces 2 années très compliquées qu'a connu PlayStation en termes d'approvisionnement. C'était difficile effectivement de mettre une main ou même les 2 mains sur cette console-là. Désormais, c'est une nouvelle chose qui se passe. Elles sont disponibles. Vous pouvez les trouver, comme vous l'avez dit, dans les magasins partenaires ou directement sur le site de PlayStation. Donc c'est une très bonne nouvelle aussi. On célèbre aussi par ce restaurant-là et par les événements qui ont lieu l'arrivée pour tous les fans et tous les curieux de plus de PS5 pour tout le monde.
Ouais. Et le menu, ça sera quoi alors? Ça sera un menu de dinosaures? Qu'est-ce qu'on va manger?
Exactement,
non, parce que c'est inspiré, ça fait rire Jean Z, mais c'est inspiré. Mais non,
c'est quoi une recette de,
oui, voilà, de dinosaures? Parce que
Alors ça va être extraordinaire. On a fait un partenariat avec des experts culinaires et un chef de la démesure qui a donc conçu entrée, plat, dessert, avec des éléments, comme je disais, inspirés de plats préhistoriques, parce que le cadre va être post-apocalyptique. Hein. J'espère que vous êtes prêts.
Ouais,
j'espère que vous êtes prêts. Et donc, du coup, vous allez voir que ça soit des mezzés, que ça soit.
Ça sera de la nourriture préhistorique.
Exactement.
Oui, mais c'est passé des millions d'années entre la fin des dinosaures et la préhistoire. Mais quand même, ce sera des plats préhistoriques.
Exactement, que vous pouvez goûter.
Comment ? Ils ont été congelés. Ils ont été congelés.
Non, tout sera fait maison. Je précise, c'est préhistorique, mais fait maison. On vous invite à goûter tout ça à partir de jeudi. Ouais.
Attention, il n'y a pas intérêt qu'il y ait des tomates. Hein. Vous savez pourquoi ?
Non.
Bah parce qu'elles sont arrivées avec Christophe Colomb. Donc, il n'y avait pas de tomates du temps de Jules César, donc encore moins du temps de la préhistoire. Mais peut-être un bon petit mammouth. Hein. Merci d'avoir été avec nous. Allez, Madame Ozzy, j'étais certain que ça allait plaire à Jean Z. Culture Média continue. On parle musique avec Clovis Cornillac et avec Stéphanie Loire. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Clovis Cornillac, l'éclectique comédien, les têtes givrées. Ce sera à l'affiche à partir de mercredi. Film de Stéphane Caz avec notamment Claudia Tagbo. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe, bonjour à tous et bonjour Clovis Cornillac. Bonjour.
On va parler musique avec vous et votre indispensable du jour concerne un album mythique. Mais d'abord, juste un mot, vous voulez dire sur Beyoncé qui est entrée dans la légende.
Oui, mais bon, puisque vous en avez parlé, Beyoncé.
Je l'ai juste dit qu'elle a reçu 4 Grammy Awards hier et ça porte son total à 32, ce qui est quand même assez dingue.
Voilà, ça c'est dit.
Une fois que c'est dit, on passe à cet américain, l'album du rappeur américain Dr. Dre.
Oui, c'est carrément un événement pour la tribu des gangsters boomers, dont peut-être vous faites partie, Clovis Cornillac. The Chronic, c'est l'album légendaire de Dr. Dre qui a été publié en 1992. Il est enfin de retour cet album, celui-là même qui a popularisé le G-Funk, celui même sur lequel j'ai échangé mon tout premier baiser. Sorti du collège, derrière l'abrébus, après le cours d'histoire géo de Monsieur Perrotin.
Mmh. Il s'appelait comment le garçon ?
Je ne dis pas son nom, parce qu'un jour je l'ai déjà dit, et il m'en a voulu, parce que ça a fait des histoires dans son couple. Donc je
et
dis
Perrotin,
plus.
Il s'en fout. Lui.
Ouais. Mais lui, il est prof, c'est ouais. Pas son problème. Ouais. Voilà, avec à fond dans le Walkman, ce genre de morceau. Bring it to the folk. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Ah, le romantisme des années 90.
Bien sûr, il était prof d'anglais, monsieur Perrotin.
Non, histoire géo.
Vous êtes la seule qui dit un Walkman.
Merci Philippe de toujours souligner mes incompétences. L'album de Dr. Dre s'appelle The Chronic. Il est à nouveau disponible sur les plateformes et le disque va ressortir sous tous les formats possibles à l'occasion de ses 30 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle, la nouvelle réjouissante que je viens partager avec vous. Puisque cet album, il avait mystérieusement disparu des services de streaming et de toutes les plateformes l'année dernière. Après le rachat par le rappeur Snoop Dogg du catalogue du label Death Row Records, label qui avait initialement commercialisé l'album The Chronic de Dre à sa sortie en 92 et dont Snoop Dogg souhaiterait aujourd'hui faire passer tout le contenu en NFT histoire de se faire un max de flouze comme on dit dans le jargon. Alors je vais vous en dire un petit peu plus sur cet album qui, pour ceux qui préféraient écouter peut-être à l'époque Rock Voisine ou Lara Fabian, je ne sais pas quelle était votre musique dans les années 90, Clovis Cornillac.
Non, c'était pas ça.
C'était pas la rap ou c'était pas Lara Fabian?
Moi, c'était un peu de tout, mais pour le coup, malheureusement, pas Lara Fabian et Rock Voisine, pour qui j'ai beaucoup de respect. Hein,
bien sûr.
J'écoutais beaucoup de variétés plus anciennes, mais j'étais pas très sensible à la variété
et
des années 90.
Et G-Funk, c'est... Ouais.
Ça, j'ai entendu.
Allez,
oui,
super. Ouais. Ça vous va bien, en plus, je trouve. Enfin, c'est très personnel quand même.
Yo.
Dr. Dre, il est devenu une légende en seulement 3 ans grâce au succès interplanétaire de son groupe mythique de l'époque, N.W.A. Ensuite, le groupe se sépare et notre bon docteur généraliste Dre, il sort son tout premier album solo le 15 décembre 92. Il ouvre la brèche à tous ses potes de l'époque qui, comme lui, décident de mêler le hip-hop à la funk et ça donne le G-Funk. Son copain cultivateur de chanvre, Snoop Dogg, lui, on l'entend sur presque tous les morceaux de cet album The Chronic, notamment sur ce titre qui donne envie de se laisser pousser les diamants et de conduire une lowrider. Fuck with Dr. Dre. Pardon. Ça va les gangsters dans le studio ?
Moi j'adore. J'adore bien la
tête.
Le premier album Doggy Dog quand il a démarré.
Exactement. The Chronic, c'est un tel classique qu'en 1998, le magazine référent du hip-hop qui s'appelle The Source le classe parmi les 100 meilleurs albums de rap de l'histoire. Rolling Stone le classe à la 138e place des 500 plus grands albums de tous les temps. Et on comprend pourquoi, parce que 30 ans plus tard, ça sonne toujours aussi bien. What all the bitches saying? Hell yeah. Philippe, je sens que vous ressentez l'appel de la Californie.
Oui, et là, dans ce que vous disiez, ce mélange de rap et de funk, c'est à la fois rap urbain et extrêmement joyeux et ouvert.
La G-Funk, la vie, Philippe. Un peu moins d'un an après sa sortie, The Chronic était certifié triple disque de platine par l'organisme qui représente l'industrie de l'enregistrement musical aux États-Unis. Autrement dit, c'est un véritable monument du rap américain qui fait son comeback aujourd'hui.
Et pardon, est-ce qu'il sort en vinyle ?
Alors justement, très bonne question et au bon moment en plus. Si je l'avais écrit comme ça, ça aurait pas été mieux. Le format physique de l'album, il faudra encore attendre un petit peu, mais il va y avoir des CD et les vinyles qui seront disponibles à partir du 21 avril. Mais Clovis Cornillac, sachez qu'ils sont déjà disponibles en précommande.
Merci beaucoup ça Stéphanie, ça vous plaît ? C'est tentant ça quand même de réentendre ça.
Ah oui, quand les albums sont absolument réussis, t'as des albums comme ça qui sont des...
Et qui transcendent le genre.
Ah ouais,
c'est intemporel, voilà. C'est comme une petite robe noire, on peut la ressortir tout le temps.
Voilà, et moi je pense à moi. Je vais ressortir.
Bon, pourquoi pas ? Vous avez le droit d'être fluide.
Oui, voilà. Je vous conseille pas. C'est vrai, là pour le coup je rentre dans les jeux vidéo et là ça devient terrible. Quoi. Tu mets une petite robe noire, je pense que...
Merci beaucoup Stéphanie. On vous retrouve aux commandes de musique tous les samedis et dimanches de 16h à 17h. Je ne retrouve plus ma feuille. On va écouter de la musique pour sortir. Mais c'est Curtis Mayfield. Ça aussi, c'est un standard.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Clovis Cornillac, on parle de ce film Les Têtes Givrées, Claudia Tagbo, film de Stéphane Caz, l'histoire de cette classe menée par un professeur. C'est vous le professeur, Clovis Cornillac. Des élèves qui ont une idée, ils avaient vu ça à la télé, ça s'est passé en Italie. Pour empêcher, ralentir autant que faire se peut la fonte des glaces, en tout cas la fonte d'un glacier, c'est le recouvrir, bâcher ce glacier et ça marche. Et le film ne se contente pas de donner des exemples, sinon des leçons. Ce fut également un éco-tournage. Qu'est-ce que c'est un éco-tournage ?
C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que ce Stéphane Caz, qui est un type absolument adorable, remarquable, d'une douceur absolue, c'est quelqu'un qui vraiment applique dans sa vie, sans donner de leçons à personne. C'est important parce que effectivement, souvent quand on parle de transition écologique ou de choses comme ça, les gens se sentent agressés comme si on leur disait tout le temps tu fais pas ce qu'il faut. Et puis
il y a aussi une grande part en France d'écologie punitive.
Oui, oui.
On a l'impression qu'être écolo, c'est payer plus cher ou se faire engueuler.
Ouais, mais en vrai, c'est pas ça. Concrètement, un type comme Stéphane, justement, voulait être cohérent du début à la fin du tournage, parce que il est très impliqué là-dedans, dans cette démarche-là. Et donc, l'éco-tournage, ça veut dire zéro déchet à la cantine, et c'est pas plus compliqué que... Voilà, c'est prendre les produits locaux et puis essayer de produire zéro déchet. Derrière, c'est des lampes à basse consommation pour l'éclairage du film, et ça marche très très bien. On arrive à faire des très belles lumières avec aujourd'hui.
Elle est très belle. Je ne sais pas si je savais pas que c'était éclairé en
très
basse
bon
consommation.
Très bon chef opérateur.
C'est
Thierry Pouget, ouais, il est formidable. Et pareil pour les véhicules, les trucs. Bon, des gens comme moi je suis en vélo et tout, donc déjà, ça fait moins de bagnoles sur le tournage. Remplir bien les voitures, prendre plutôt des voitures électriques. Enfin, et puis, aller même jusqu'à, effectivement... Le producteur est allé jusqu'à payer une taxe carbone. Il voulait être carrément...
Il a compensé, ouais. Comme dans... je ne me souviens plus comment s'appelle ce jour, on est en hélicoptère, qui était présenté avant par Philippe de Dieuleveux.
Il
compense la production, compense les dépenses carbone par le jeu de l'hélico, la chasse au trésor, ou la carte au trésor.
Ouais, pour qu'il y ait effectivement une cohérence jusqu'au bout. Et le tournage, ça se fait de plus en plus. Hein. Il faut savoir qu'on a tous maintenant, là je vous vois avec votre gourde et tout.
J'ai une gourde plutôt que des gobelets.
Oui, ça y est, c'est devenu sur les tournages, les gens, chacun a sa gourde, son truc, ça se fait. C'est des petites choses, évidemment, on va dire.
C'est une petite chose et pas une petite chose. Aujourd'hui, c'est l'émission 770. 4 gobelets par jour, ça fait 1400, ça fait... Alors, j'arrive plus à calculer, ça fait 3000 gobelets économisés juste avec une gourde.
Donc, c'est
pas rien.
Non, mais rien, c'est ce que disait De Vos, quoi. Rien, c'est rien, mais trois fois rien, c'est déjà quelque chose.
Ouais.
Donc, il n'empêche que voilà.
Je vous interromps parce que je veux en savoir plus sur le prochain film de Franck Magnier et de Charlot dans lequel vous serez. Ça vous fait déjà marrer. Il y a Cadmera d'Isabelle Carré. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est vous dites que dans ce tournage, dites, je suis allé très loin, je joue un réalisateur complètement barré, j'ai pris des risques, ils m'ont laissé la place de faire le dingo. on vous verra faire quoi, Clovis Cornillac ?
Et je ne sais pas, parce que ils sont en plein montage du film.
Ah, peut-être pas ce qu'ils vont garder.
Bah, peut-être que voilà, c'est peut-être très très mauvais et ce que j'ai fait et peut-être ce sera coupé.
Oh non, vous pensez pas.
Bah, en tout cas, c'est leur liberté. Et, oui. Et heureusement,
mais
quand
par
on
exemple,
réalise
qu'est-ce qu'ils
un
ont
film,
fait faire
bah, non, mais évidemment, je ne dirais pas parce qu'on a poussé le personnage. En tout cas, ils m'ont laissé l'espace à pousser un personnage. Voilà, dans l'excentricité.
Je demanderai à Cadmérade la prochaine fois que je le vois, ou alors à quelqu'un qui connaît bien Cadmérade.
J'ai l'info. Ouais. Il paraît qu'il est formidable dedans.
C'est vrai,
ouais.
Julia.
Ouais, il paraît qu'il est formidable et effectivement qu'il va très loin dans la comédie. J'ai hâte de voir ça.
Par exemple, il vous a dit quoi?
Bah, je vous dirai pas.
Il vous a raconté les scènes.
Vous avez qu'à l'inviter.
Vous irez voir Les Têtes Givrées en salle ou pas?
Oui, bien sûr.
Ah, quel menteur. Il me dit que vous avez une technique spéciale pour aller voir les films en salle quand même.
Oui.
Il veut raconter cette technique, j'ai trouvé extraordinaire. Racontez.
Non, mais moi, je rentre quand c'est éteint et je pars quand c'est éteint.
Ah, alors, j'ai entendu mieux que ça. Une fois, vous avez dit, c'est la technique art. Je rentre dans la salle, mais je ne regarde pas, j'écoute.
Ah, vous voulez dire comment je regarde le film? Ah oui, non, effectivement, c'est en général. Mais souvent, hein, même quand vous réalisez un film, quand la prise vous paraît vraiment chouette, vraiment bien, le cadre, vous regardez le cadre, pour vraiment être dedans, c'est vrai que les yeux fermés, Il y a une qualité, tu sais à quel endroit tu es. Le son, c'est pour ça que la radio, c'est formidable.
Bah évidemment. J'avais une prof de mise en onde, elle s'appelle Claude Dominique, elle était géniale. Elle me disait, l'avantage de la radio sur la télé, c'est que tu n'es pas emmerdé par les images.
Ah, c'est tellement vrai.
Petit hommage. Merci beaucoup, Clovis Cornillac. Merci d'avoir été avec nous. Les Têtes Givrées, vous en êtes une presque. Nous, on se retrouve, nous, lundi à 9h pour Culture Média. Le groupe M6 qui met en place un gros dispositif éditorial. Pourquoi il écrit lundi? C'est demain. Ça s'appelle, c'est la semaine green. On va s'intéresser. C'est un doc. 2050, le monde d'après, nous serons avec sa réalisatrice Alix de Maintenant. Ça ne s'invente pas. Et puis, Docteur, un jour je mariais un ange. Vous connaissez cette chanson?
Ah oui.
Pierre Demar, révélation aux victoires de
c'est
la
génial,
musique.
Ça.
Les victoires, ce sera vendredi. Il sera avec nous demain, juste après le flash. Donc, Julia Vignali, qui veut rien dire sur ce film de Barjo et Mélanie Gomez. Bien fait pour vous, le programme du jour.
Alors, par contre, je peux vous dire des trucs sur le programme.
Ah, oui.
On ne naît pas leader, on le devient. C'est vrai, ça? Non.
Je ne sais pas.
Vous êtes un leader, vous avez des équipes, des gens qui vous écoutent.
Oui.
Vous avez appris à l'être leader. Vous savez comment faire avec vos équipes.
J'en
sais
rien parce que quand j'étais petit, j'étais l'aîné, par exemple. Est-ce que ça change suivant qu'on est l'aîné ou pas l'aîné?
Eh bien, la question au général Vincent Desportes, un général qui a écrit un livre « Devenez leader » et qui va nous expliquer justement comment le devenir, comment motiver les équipes et comment se faire entendre du plus grand nombre. C'est bien ça.
Il ne faudrait pas qu'il n'y ait que des leaders.
Mais
parce
oui, que s'il n'y a que des leaders, on fait comment?
Ah, vous avez
exactement.
Raison, merde. Mais oui. On posera la question aussi.
C'est un nom, ça s'appelle l'armée mexicaine. On vous écoute, jeudi à demain. Merci encore, salut.
Merci.